Bonjour à tous, nous sommes réunis pour un show devant TV documentaire avec le petit Karl. Alors le petit Karl, vous allez me dire où est-ce que j'ai vu ça? Eh bien, je l'ai vu au festival Écran Jeunesse, qui était fusionné cette année avec le festival TV de Luchon. Et oui, il faisait partie de la distribution, de la compétition, et on a pu le voir en avant-première. Et j'ai la chance d'avoir avec moi le réalisateur Stéphane Marelli. Bonjour Stéphane.
Bonjour Vanessa.
Mais quel bonheur ce petit documentaire, le petit Karl.
Je vous en prie, continuez.
Et qui a été présenté au festival Écran Jeunesse.
Exactement, et qui a eu le prix du documentaire.
Et tout à fait. Ça, on va le souligner, vous en faites pas. Alors, comment vous êtes arrivé sur cette aventure?
Bah, comme souvent, ce sont des concours de circonstances. L'initiateur de tout ça reste un des protagonistes principaux du film, qui est un des enseignants, qui est Jean Galabert, qui a été vraiment le moteur pour l'aventure au sein de l'école pour les enfants, et qui, dès le début, avait une envie, une velléité que cette histoire soit également médiatisée, qu'il y ait un documentaire qui soit réalisé, qu'il y ait une trace qui perdure au-delà de ces années passées avec ces enfants-là. Et donc, on est fin 2019, début 2020. Il a connaissance d'une production audiovisuelle, il va les voir, et en fait cette production audiovisuelle me met en relation avec lui parce que il était au courant que les sujets de jeunesse m'intéressaient beaucoup, que ça parlait du sport, et puis il y avait comme enjeu que les enfants partent à Tokyo, et en fait je revenais justement de Tokyo puisque j'avais travaillé là-bas pour la Coupe du Monde de rugby là-bas en 2019, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était au printemps.
Oui, tout à fait. Ouais, oui.
C'était une combinaison de pensées qui font qu'on s'est retrouvés tous ensemble et Jean a un peu expliqué tous les tenants, les aboutissants de ce projet. Alors ce projet, en fait, il allait bien au-delà de ce qu'on a vécu au sein de la classe et du club média qui était dans l'école. C'était beaucoup plus large, c'était un énorme projet qui mélangeait culture, éducation, sport, et qui faisait un peu le grand écart entre les JO de Tokyo en 2019 et ceux de 2020 et ceux de 2024 avec à Paris. Voilà. Et dans tout cette espèce d'énorme plan, moi j'ai entre guillemets tout de suite été touché par ces histoires de gamins qui à Villejuif dans une banlieue parisienne avaient monté un club média dans lequel ils faisaient des podcasts et qu'ils avaient la velléité de récupérer de l'argent pour pouvoir partir à Tokyo justement pour suivre les JO. Donc moi ce truc-là m'a tout de suite touché, donc je suis parti au collège et je les ai rencontrés. Et à partir de là, je suis tombé amoureux de ces enfants, je suis tombé amoureux de ce collège, des gens qu'ils faisaient vivre, pour plein de raisons.
Et ça se comprend parce que ils sont hyper attachants, ces enfants.
Ils sont hyper attachants. Alors l'histoire, elle a duré longtemps parce que je les ai rencontrés donc en 2019-2020. Eux, ils étaient en cinquième, ils avaient 11-12 ans. Aujourd'hui, ils sont tous en seconde. Ils ont 15 et les premiers vont bientôt avoir 16 ans.
Oui.
Mais effectivement, dès que je les vois, dès que je les ai rencontrés, en fait, c'est le travail basique quand on cherche à documenter. On s'intéresse d'abord au casting, savoir s'il a un potentiel, et puis savoir surtout si le casting va être à même de verbaliser, surtout quand on est avec des enfants, parce que moi, mon idée immédiate, tout de suite, c'était que cette histoire, si elle était racontée, elle devait forcément être racontée par les enfants.
Ah oui.
Et donc je me rappelle plus, mais j'ai dû interroger 5-6 enfants et en fait j'étais déjà surpris par leur capacité à pouvoir verbaliser, à comprendre les choses. J'arrivais pas encore à comprendre ce qui les animait tous, mais j'ai tout de suite senti que ce groupe, il y avait quelque chose d'un peu singulier. Pourtant, ce groupe, il était disparate. À la base, c'était même pas des potes de classe. Ils étaient dans des classes différentes. Ils se connaissaient pas réellement. Mais il y a eu quelque chose qui a fait et qui les a fédérés, parce que ça a été quand même une démarche active de leur part. S'inscrire dans ce club média, c'était une de leurs démarches. Et très certainement, c'est cette démarche active qui a fait cette sélection de groupes d'enfants assez singuliers et terriblement attachants.
Oui, et donc il y a eu un parcours par rapport à la crise du Covid. Ils avaient assez d'argent et ils ont pas pu faire ce déplacement.
Oui, alors notre petite histoire, elle est rentrée en conflit avec la grande histoire planétaire, c'est-à-dire que là, tout d'un coup, on s'est pris effectivement le Covid. On n'avait pas encore à ce moment-là réuni l'argent, mais on était pourparlers engagés avec la mairie. Et globalement, il y avait une porte qui s'ouvrait. Normalement, on devait réussir à récolter suffisamment d'argent et à partir. Donc là, tout s'est arrêté net. C'était un coup dur, mais un peu comme tout le monde. Donc il y a eu une grosse déception, mais l'événement il était tellement énorme, c'est-à-dire tout ce qui se passait, le fait que l'école s'arrête, que tout s'arrête, les confinements, la peur dans laquelle on était, tous ces éléments-là, en fait, font que cette déception autour de ce projet-là, en fait, il était peut-être secondaire pour les enfants. C'est peut-être les adultes qui étaient plus sensibles à ça. Coup dur. Mais coup dur qui, en fait, très rapidement s'est transformé parce que à partir du moment où le comité des Jeux Olympiques a annoncé que les JO seraient décalés d'un an du coup, en fait, nous, ça a été une source d'espoir terrible et on y a à nouveau cru, quoi. Et on a recommencé à retravailler pour récolter de l'argent pour pouvoir y aller. Donc, voilà. Mais de toute façon, toute cette histoire, tout ce film raconte ça, c'est-à-dire que ça a été une succession de d'espoirs qui s'ouvraient et de d'espoirs qui s'effondraient et de résilience. Et voilà. Alors par moments, j'avais même l'impression que cette résilience, elle était plus simple pour les enfants parce qu'il y a cette espèce d'insouciance, d'innocence. En plus, ce groupe a une capacité à être positif et à être content de la moindre chose, du moindre moment chouette qui se passe. En fait, ils s'en sont sincèrement heureux, tout ça. Donc, ça serait difficile de vous dire comment les enfants ont vécu toutes ces périodes-là. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça a été une succession d'espoir et de déception qui n'a pas arrêté de s'enchaîner, quoi.
Oui, puis l'espoir, on peut en parler parce que il y a eu, vous avez transformé, le ticket pour Tokyo en super road trip.
Oui, alors ça c'est également la très très bonne idée des enseignants qui s'en occupent. Une fois que en fait donc on est en 2021, les JO ont déjà été reportés d'un an, on a encore l'espoir de partir, mais je ne sais plus quand on est dans l'année, mais très rapidement les autorités japonaises annoncent qu'il n'y aura pas de spectateurs étrangers pour les Jeux Olympiques. Donc à partir de là, c'était la fin de l'histoire, le jeu s'arrêtait là. Mais en revanche, nous, on avait réussi déjà à lever beaucoup d'argent, quelque chose autour de 35 000 euros, quelque chose comme ça. On avait une grosse subvention de la mairie de Villejuif. Donc les enseignants se sont trouvés dans double problème. Le premier problème, c'est on a de l'argent aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? Et puis dans leur tête, se dire que cet argent récolté par l'entreprise de ces enfants-là, ne pouvait pas se transformer en achat d'ordinateur pour la salle ordinateur du collège. C'était un petit peu décevant. Et ensuite, ils étaient animés par une autre conviction pédagogique, une telle entreprise, que les enfants se soient engagés sur une telle période, dans une telle entreprise, il devait y avoir une sanction. Il devait y avoir quelque chose de concret et de matériel qui devait sanctionner cette entreprise. Alors ça pouvait être un énorme échec ou juste comme ça, mais on ne pouvait pas, on pouvait pas acheter des ordinateurs pour la salle informatique et c'est tout quoi. Donc la force des professeurs, ça a été de resonger, de repenser tout ça, et ils vont transformer ce voyage à Tokyo en un énorme road trip à travers toute la France. Il ne faut pas oublier que nos enfants, ils viennent de villes juives, les voyages ne sont pas réguliers pour tout le monde. Il y en avait certains dans le groupe qui quittaient très rarement l'île de France. On en a même un qui n'avait jamais vu la mer de sa vie. Et un second, c'était la deuxième fois de sa vie aussi, qui voyait la mer. Donc, bon an, mal an, cette espèce de l'autre consolation telle qu'on le nommait à un moment, en fait, je pense que ça s'est avéré en quelque chose d'encore plus fort et de plus extraordinaire.
Et puis on le sent, hein. Il y a beaucoup d'émotions, ces jeunes s'ouvrent complètement pendant ce voyage.
Oui, très clairement. Même pour certains, ça a été phénoménal. Alors le voyage est un espèce de point d'orgue, mais je pense qu'il ne faut pas le dissocier de toute l'aventure qui a couru sur presque 3 ans, parce que ces démarches de faire les podcasts, de s'engager, de faire des tombolas, d'aller sur les marchés, de croire, de ne pas croire, de retomber sur ses pas, de repenser d'autres choses et tous ces éléments-là, a fait aussi énormément dans la maturité de ces enfants.
Ah oui, ils s'investissaient, ils grandissaient en fait. Ils grandissaient au fur et à mesure que le projet changeait, ils se démoralisaient pas, ils y allaient quoi.
Jamais. Ça reste aussi une énigme. J'ai vu des enfants qui étaient heureux tout le temps. Tout le temps. C'était assez génial. Et ce voyage, le voyage a duré à peu près 10-12 jours, je ne me rappelle plus exactement, 10 jours. Ça a été fantastique. Ça s'est passé, ça s'est déroulé, mais sans aucun accroc. Le groupe, il a été extraordinaire. Partout où on passait, on était reçus plus que gentiment. Tout le monde s'intéressait à leur histoire. Il y avait un compte Instagram du road trip. Et en fait, plus on avançait dans la France, plus ce compte se grossissait avec les gens qu'on rencontrait au fur et à mesure. Donc ça a été génial, ça a été une expérience dingue pour ces enfants, mais également pour les enseignants et par la même occasion pour moi. Ça a été un moment extraordinaire.
Alors j'ai une question, pourquoi ils l'ont appelé le petit Carl, leur podcast?
Parce que le collège s'appelle Karl Marx.
Karl Marx, oui.
Ouais, ça s'invente pas, hein. Il y en a pas d'autres pas d'autres en France, mais Villejuif a une longue culture populaire ouvrière et a été, et même encore aujourd'hui, une commune sous pavillon communiste. Donc c'est assez génial parce que quand on va à Villejuif pour la première fois, où on se retrouve sur la rue ou l'avenue Karl Marx qui croise l'avenue Yuri Gagarine, etc., c'est assez rigolo. C'est assez rigolo. Et donc naturellement le podcast, qui anciennement était un journal écrit, c'était une espèce de feuille de chou qu'il faisait précédemment, et c'était le nom de ce journal-là. Donc, ils l'ont repris.
J'ai l'impression qu'ils vous ont pas mal étonné, ces jeunes.
Oui, très vite. Très vite. C'est moi, dès que je les ai vus pour la première fois au collège, J'étais séduit, j'étais très étonné. Je savais pas trop déjà à quoi m'attendre en allant là-bas. Ça ne correspondait pas du tout à ma culture ou au milieu socio-professionnel. Moi, j'ai grandi dans la banlieue plutôt aisée de Paris. J'allais à l'école la nuit. J'ai une vie de d'homme blanc, classe moyenne. Donc, aller à Villejuif, aller dans un collège de réseau d'éducation prioritaire, moi-même en tant que père, ça, ce sont des mots. Même si j'essaie de ne pas avoir de préjugés, de choses comme ça, ce sont des mots quand même un peu forts et je me suis battu pour que ma fille ne soit pas infectée de par la carte scolaire dans un lycée de réseau d'éducation prioritaire. Donc en mettant les pieds là-bas, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, que ce soit en termes de population ou que ce soit en termes d'écoles, d'infrastructures, de milieu enseignant et ça a été une véritable découverte. À plein d'égards. Donc les enfants, effectivement, ils m'ont séduit, mais en fait j'étais également séduit par les équipes enseignantes et même plus largement par l'énergie qui se dégageait de ce collège. Tout de suite j'ai été très très bien accueilli, voire même adopté par le principal qui tout de suite m'a globalement donné les clés du collège en me disant allez-y, faites ce que vous voulez. Tout ça a été une découverte. Tous les enseignants qui sont plutôt jeunes, parce que ce sont essentiellement des jeunes qui leur cursus d'enseignants et donc ils sont affectés dans des établissements où il y a de la place, où il y a très peu de demandes. Ouais, c'est très rare que des enseignants demandent à être mutés à Villejuif dans un collège d'éducation prioritaire. En fait, tout ça fait, et c'est assez génial parce que oui, le corps enseignant, il est jeune. Il y a une fougue, il y a une insouciance, il y a une envie parce que eux-mêmes sortent de l'école et qu'ils ont faim, ils ont envie de mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris à l'école et ils sont confrontés pour la première fois à des élèves. Alors en plus il se trouve que ces élèves sont particulièrement attachants, sympathiques, etc. Donc voilà, donc tout ça fait que j'ai été très très surpris par l'école, par les enseignants et par les élèves. Et j'ai tout de suite été très très attaché. Et à partir du moment où j'avais mis le pied dans cet endroit-là, je ne pouvais plus partir, quoi.
Ben, je vous comprends, c'est vrai. Et quand on découvre ce documentaire, on a envie d'en voir plus, en fait.
Ben oui. Voilà, moi, déjà, ce que j'aimerais faire, c'est pouvoir suivre encore ces enfants, c'est-à-dire les retrouver dans une dizaine d'années, voir ce qu'ils sont devenus. Parce que cette entreprise, ce qu'ont vécu ces enfants-là, va peut-être chambouler dans leur trajectoire de vie. Ce qu'ils ont entrepris, et ils le verbalisent un moment dans le film, c'est-à-dire l'idée ou l'espoir de pouvoir partir à Tokyo était tellement impensable pour eux que c'était comme s'ils allaient décrocher la Lune ou partir dans l'espace. Et en fait, ils ont appris qu'en y croyant, en y travaillant ensemble, on ne peut peut-être pas décrocher la Lune, mais en fait, on peut sévèrement s'en approcher. Et donc, ils ont compris qu'il y avait des barrières, qu'il y a des barrières qui sont mises par la société, par les gens, par la culture, par la famille, par ces choses-là. Et en fait, ces barrières, ils ont compris qu'on pouvait les bouger. Donc voilà, j'aimerais bien suivre, bien voir, j'aimerais bien les voir un peu plus tard, voir comment ils évoluent, dans quel domaine professionnel ils sont partis. Ça serait intéressant de les suivre.
En tout cas, pour ceux qui ne pouvaient pas être au Festival Écran Jeunesse, ça y est, ça va être diffusé le 12 mars à 19h et pour ceux qui auraient loupé la première, le 19 mars à 20h sur Canal+ Kids.
Oui, et ensuite, ça sera disponible en replay sur la plateforme MyCanal.
Tout à fait. J'imagine que vous êtes heureux, là, vous attendez avec impatience.
En fait, le temps de la fabrication ne correspond pas tout à fait au temps de la diffusion, toutes ces choses-là. Moi, le film, il est fini depuis plusieurs mois. C'est assez impalpable. Je suis content que ça puisse être vu. Les plus heureux, c'est les enfants. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment hyper heureux et très, très en attente. Oui, bien sûr, même tous, hein, tout le monde.
En tout cas, je vous demande si jamais vous les voyez de leur tirer mon chapeau, parce que ils m'ont vraiment épaté.
Vous n'êtes pas la seule.
Oui, j'espère bien. D'ailleurs, c'est pour ça que le documentaire a gagné le grand prix quand même du Festival Écran Jeunesse, il faut le dire.
Très agréable, oui, bien sûr.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Stéphane. Et merci de nous avoir parlé du documentaire Le Petit Carl.
C'est moi qui vous remercie. Bonne journée.
C'était Chaud Devant TV Documentaire avec Le Petit Carl. Rendez-vous le 12 mars à 19h ou le 19 mars à 20h sur Canal+ Kids et après en podcast sur la plateforme de Canal+. So you got to let me know. Should I stay or should I go?